Avant de céder l'antenne à nos commissaires, Monique est en studio parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Il y a un cycliste qui a été frappé, il est décédé.
Oui, ça se passe à Montréal, dans le quartier Rosemont. La collision est survenue sur Saint-Zotique à l'angle de la 19e avenue au cours de la dernière heure. Le ou la cycliste, parce qu'on n'a pas encore d'identification formelle, a été heurté par un camion lourd, un 10 roues. Son décès, malheureusement, a été constaté sur place. Saint-Zotique est toujours fermé pour enquête entre la 18e et la 20e avenue. Et il y avait un témoins présents sur les lieux. Selon les premières constatations, on comprend que les deux circulaient dans la même direction, donc en est sur Saint-Zotique. Le cycliste aurait voulu tourner vers le sud et c'est à ce moment-là que l'impact a eu lieu.
Merci Monique. Bon, on va parler du G7, sécurité manif tantôt, mais parlons d'abord évidemment de la grande pièce de théâtre.
Oui, c'est terminé
par un message sur Twitter où M. Trump l'a traité, en fait traité M. Trudeau de faible et de malhonnête.
Oui, ben en fait, ces insultes-là viennent consacrer quelque chose, mais je regardais ça, je me disais, c'est quand même assez important de comprendre un petit peu là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le G7 dans son ensemble. Le G7, ça a été dans les années 60. Ça a été créé. Il y a eu le G5, G6, G7, G8, puis là, c'est redevenu le G7. Essentiellement, c'est les 7 puissances économiques occidentales qui se réunissent année après année, puis on connaît le système. À chaque année, ça change de pays. Bon, ce que vient de faire Trump, c'est littéralement de saboter cette réunion-là du G7 qui a lieu, qui avait lieu à Charlevoix. Ce que ça veut dire, c'est que...
saboter celle-là est presque les prochaines.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il vient de saboter le G7. Il vient de mettre la hache dans ce qui s'appelait une sorte d'entente entre les principales puissances économiques sur un certain nombre, sur deux principes essentiellement, c'est-à-dire le libre-échange est favorable à toutes les économies. Donc, abaissons les tarifs douaniers, abat les taxes sur l'importation, l'exportation, libéralisation là, parce que ça favorise toutes les économies. Il vient de mettre la hache là-dedans, puis on le voit, là. Il parle des tarifs sur l'acier, l'aluminium, sur les autos, là. Il remet en cause l'ALENA. Bon, bref, il met la hache là-dedans. Donc, ça veut dire que chaque pays est comme renvoyé à sa propre économie. Alors, on appelle ça du protectionnisme ou de l'isolationnisme. Dans le fond, c'est juste qu'on met fin à un ordre qui avait été installé par les Américains avec tout leur traité de libre-échange. C'est ça qu'ils viennent de faire. C'est grave, tu sais. Fait que, quel que soit, les insultes jusqu'à un certain point, je te dirais que c'est comme une écorchure sur la cuirasse parce que, fondamentalement, il vient de saboter un des organismes qui représentait le nouvel ordre économique après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les conséquences de ça, ben là, franchement, je suis pas assez brillant pour pouvoir les prévoir, mais c'est clair qu'elles vont être à long terme. La première, en tout cas, puis je te passe la parole après, Mario, mais la première, c'est que je doute très fortement que l'ALENA soit vraiment renégociée d'une façon qui puisse être intelligente et favorable aux deux pays. Je pense que c'est à peu près mort, à mon sens.
Mario.
Ouais, mais il y a saboté aussi d'une certaine façon parce que l'autre grand consensus du G7, là, au-delà de libéraliser les échanges, faciliter le commerce, l'autre grand consensus, c'était que ces pays-là étaient des alliés. Là. C'est
oui.
Que il y avait comme des questions que tu n'avais pas à te poser. Là. C'était comme acquis qu'à la base, ces grandes démocraties occidentales se travaillaient ensemble, étaient des alliés, puis pouvaient avoir des divergences, là, des divergences sur les moyens puis tout ça, mais si je ne connais pas sur les grands objectifs, il n'y a pas beaucoup de précédents de quelqu'un qui se comporte en ennemi du groupe dans ces réunions-là ou qui se comporte un peu en voyou. Là. C'est pas mal ça, l'attitude générale de Trump. Toujours dans sa même approche, là, puis quand lui écrit ses messages Twitter aux Américains, c'est toujours la même approche, c'est que ces 7 pays-là ont abusé, tout le monde a abusé des États-Unis, là, le Mexique, le Canada, ouais. Les pays du G7, pendant des années, tout le monde... Pendant ces années où les États-Unis étaient faibles, parce que c'était ça l'hypothèse, c'est que dans le fond, quand Trump n'était pas là, peu importe le parti au pouvoir, là, républicain ou démocrate, quand Trump n'était pas là, il était gouverné par des faibles. Tous les autres, à part lui, étaient des faibles. Donc, pendant toutes ces années-là, sous Bush le père, Reagan, Bush le père, Bush le fils, Clinton, nommez-les, Obama, toutes ces années-là, les Américains se sont fait rouler, se sont fait avoir. Parce que le président était pas assez fort. Puis là, enfin, là, depuis 2 ans, là, il y en a un fort. Puis là, lui, il tient son bout, puis lui, il défend les Américains. Fait que l'espèce de conte de L'espèce de conte de Disney que Trump invente pour les Américains, c'est vraiment celui-là. Là, que pour la première fois, ils ont un président fort, puis là, ben, lui est pris pour remettre de l'ordre dans tous ces abus que les pays voisins, que les pays du G7 ont fait, l'ont abusé, se sont moqués des États-Unis, mais lui, il faut qu'il aille réparer tout ça.
Oui, puis là, tout le monde se retrouve en enfer. Puis,
c'est ça.
Tu sais, tout le monde va pourrir en enfer. Mais dans le fond, la réaction modérée de Trudeau, puis des autres chefs d'État, ben quoi que modérée, pas si tant que ça. Là, je trouve que la réaction française est assez vigoureuse. Tu sais, ils dénoncent un petit peu l'incohérence de la position américaine. Mais
il y a quelque part, là, ils ont désigné une entente. Là. Ils avaient donné leur parole sur une entente, puis n'aimant pas la façon dont M. Trudeau l'a interprété dans la conférence de presse, il a retiré son appui à une déclaration commune. C'est,
ouais.
Ça aussi, c'est sans précédent.
Oui, puis le résultat, fait que moi, la modération de la réaction, moi, m'apparaît comme étant dit, attendons les prochaines élections au Sénat. Ben, peut-être qu'à un moment donné, les républicains vont perdre leur majorité, puis que ce seront les démocrates qui prendront. Ça pourrait être un contrepoids à Trump, quoique maintenant, on en doute fortement.
Mais c'est moi, sa façon de négocier quand même.
Penses-tu?
Ben, jusqu'à un certain point. Tu sais, quand il traitait, il y a quelques mois à peine, Kim Jong-un de Rocketman, il riait de lui, le petit gros, il est laid, il est insignifiant. Puis là, aujourd'hui, il est à Singapour, puis il dit qu'en quelques minutes, il va savoir s'il y a moyen de faire un deal ou pas. Ça devient une façon de faire. T'sais. Il peut aussi bien se rallier avec le Canada contre le Mexique à un moment donné. Il est imprévisible.
Oui, mais là, quand tu négocies, c'est que tu veux éventuellement avoir un meilleur deal. C'est ça, là, son
ordre. Mais là, il veut forcer la main sur le système de gestion de l'offre.
Ben oui, mais t'sais, rendu là, est-ce que le Canada peut accepter qu'on remette en question la gestion de l'offre, qu'on impose des tarifs comme ça sur l'aluminium? Il me semble qu'il n'y a plus d'entente possible à un moment donné. Il me semble que là, il est allé au-delà d'une entente possible.
Mario?
Ben, je pense quand même que les négociations se continuent sur l'ALENA. On se comprend que je suis d'accord que c'est sa façon de négocier. Là, probablement, il fait tout ça pour mettre de la pression, mettre le Canada à genoux là, la veille des négociations de l'ALENA. Mais il y a quelque chose qui se brise dans la relation de M. Trudeau et lui, la relation entre le Canada et les États-Unis. Il y a quelque chose quand même de brisé. C'est pas pour rien que Stephen Harper, Andrew Scheer, de partout, les gens il y a comme les Canadiens se solidarisent derrière Trudeau, là, derrière le gouvernement canadien en disant, wow, un instant, là, tu sais. Il faut.
Mais tu sais, je me souviens quand le Canada avait décidé de ne pas embarquer avec les Américains dans la deuxième guerre en Irak. M. Chrétien avait à ce moment-là dit que, comme c'est pas une opération sous le chapeau des Nations Unies, nous, on n'embarque pas. Les relations étaient assez froides. Mais c'est pas comparable.
M. Bush avait été attaqué. C'est-à-dire que. C'était compréhensible. Tu avais une décision difficile. L'Irak, on y va ou pas. Puis le Canada prend pas la même décision que les États-Unis. Mais quand même, Monsieur Chrétien s'était empressé de rappeler que sur plein d'autres dossiers, on restait un allié. Ça s'envoyait pas des invectives à gauche et à droite comme celle-là. Et, je veux dire, c'était quand même... La suite des choses était quand même prévisible. On comprenait qu'il y avait un dossier de désaccord. Là, ce qui rend ça insécurisant pour nous, pour la population, pour les gens qui regardent ça de l'extérieur... On sait pas trop où ça s'arrête, on sait pas trop c'est quoi les dossiers, dans le sens que...
On voit bien le retour sur soi. Tu dis, les Canadiens sont solidaires de Trudeau, mais tout le monde va être derrière son chef d'État dans chacun des pays. Donc, on revient à des États qui se protègent de plus en plus, qui sont solidaires entre eux, mais l'espèce de citoyen du monde ou la grande mondialisation, ça a du plomb dans l'aile.
Mais aux États-Unis, et ça me rassure, je dois le dire, il y a quand même plusieurs voix qui se sont levées aux États-Unis pour dire, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? T'as guerre contre le Canada, nous autres, là. Il y a quand même des voix lucides aux États-Unis qui disent, ben, qu'est-ce que c'est ça, là? Le Canada était un allié depuis des années, puis ils nous ont rien fait de spécial. Pourquoi tout à coup, nous autres, là, les États-Unis, on serait partis en guerre contre Justin Trudeau, on serait partis en guerre contre le Canada? Il y a des voix raisonnables aux États-Unis qui comprennent pas où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, quand tu prends ça froidement, là, bon, on va le voir, là, ce soir, qu'est-ce que ça va donner, ce sommet historique avec Kim Jong-un, mais il y a fort à parier, là, si les choses vont bien, s'il n'y a pas de gros accrochages, qu'il va sortir de là Donald Trump en disant que ça, là, Kim Jong-un, c'est un leader extraordinaire, puis c'est un gars solide, puis c'est quelqu'un de bien. Fait qu'il va s'être pogné avec tous les leaders des grandes démocraties, tu sais, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada. Ça, ce sont des gens suspects, puis des voyous, puis des gens pas fiables avec qui Trump s'est pogné. Mais Kim Jong-un, oh, c'est un monsieur. Ça, c'est un leader.
My new best friend.
Ben oui. Ça, c'est un leader éclairé. Alors que le type, c'est le chef de. C'est un dictateur, là, tu sais. Fait que.
On s'arrête là-dessus.
C'est le monde à l'envers.
Tout ça pour dire que ça a coûté 600 millions pour le petit pique-nique de la fin de semaine. On va en reparler après la pause, 8h43. Toujours la 10, là, on a amorcé les manœuvres pour retirer ce morceau de béton.
Oui, mais c'est toujours en cours et on n'a pas encore réussi à libérer les voies, loin de là. C'est toujours fermé à partir de la 30.